La grande édition vous est présentée par Didier Arnoux. Bonjour Didier.
Bonjour Michael, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, un début de semaine marqué par une série de faits divers. Une rixe à Moriane, une femme retrouvée morte à Guizonnach, deux Ajacciennes qui se découvrent une carrière de trafiquante de drogue. Nous parlerons politique avec l'Assemblée de Corse qui va débattre du projet d'écriture constitutionnelle de la Corse dans la loi fondamentale. Au Jomer, les élus répondent aux administrés. Ce matin, c'est Jean-Christophe Angelini, le maire de Porto Vecchio, qui était notre invité. Il sera aussi question du bilan 2023 de la gestion des déchets, de l'association L'Éveil qui fête ses 60 ans, de la Semaine Sainte, événement marquant aussi pour les chrétiens. Enfin, dans le prolongement de ce journal, le McFood, comme tous les lundis, Jean-Philippe Thibaudeau, on vous retrouve à midi et demi. Quel est le menu aujourd'hui ?
Alors, cette période de carême, Didier, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Malheureusement, trêve internationale oblige, pas de rencontre le week-end dernier. Mais en revanche, la pression reste très forte sur les clubs insulaires, sur l'ACA qui reste sur 5 matchs sans victoire et qui a peut-être dit adieu à ses espoirs de Ligue 1. Et puis la très grosse pression, c'est pour le Sporting, à égalité de points avec le premier non relégable. Et cette équipe du Sporting, dont il a été question tout au long de la semaine, peut-être d'un nouvel entraîneur, peut-être Frédéric Antonetti, peut-être un autre. On essaiera d'avoir des réponses au cours de ce McFoot.
Allez, merci Jean-Philippe. On vous retrouve à midi et demi. Avant cela, c'est le journal. Et un homme qui a été atteint par balle vers 6h30 ce matin à Moriani, à Moriani-Plage, lors d'une rixe. La victime, touchée au cou, a été transportée peu après en état d'urgence absolue au centre hospitalier de Bastia. Il faudra attendre le résultat de l'autopsie pour en savoir plus sur les causes de la mort d'une octogénaire, apprenait Lydie Fiumo, où le corps sans vie de cette femme de 88 ans a été retrouvé hier après-midi. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Bastia, enquête confiée à la brigade de recherche de Guizonnach. Un homme mis en examen hier est placé en détention provisoire pour une tentative de meurtre à Guizonnach en février dernier. Les faits remontent à la nuit du 23 au 24 février exactement. La victime, un jeune homme d'une vingtaine d'années, avait été gravement blessé. Le suspect était en fuite depuis cette soirée-là. Il a été interpellé vendredi soir à Folély. Le trentenaire est connu de la justice pour des affaires de stupéfiants. Il a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire. Ce sont deux femmes au profil atypique qui ont été interpellées en fin de semaine dernière en possession de drogue et d'argent liquide à Ajaccio. Deux mères de famille, inconnues, totalement inconnues de la police et de la justice, qui ont été remises en liberté hier. Elles comparaîtront prochainement devant le tribunal. Leur profil est loin, très loin, de ce que l'on peut faire en matière de dealer, Marion Galland.
Elles ont 50 et 55 ans, mères de famille, l'une ancienne agent de sécurité aujourd'hui sans emploi, l'autre salariée dans une entreprise de BTP. Lors de leur interpellation, jeudi dernier, sur la route des Sanguinaires, puis lors des perquisitions, près de 2 kilos de drogue avaient été saisis, du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne, ainsi qu'environ 3000 euros en liquide. Totalement inconnues de la justice, les deux quinquagénaires n'ont pas du tout le profil de trafiquants de drogue aguerris. Elles ont expliqué aux policiers comment elles avaient été contactées il y a quelques mois via un réseau social par une personne se cachant derrière un compte anonyme. La proposition, revendre de la drogue en échange d'un petit pourcentage des recettes. Les deux femmes, qui traversent alors une période difficile sur le plan financier, acceptent et vont à quelques reprises réceptionner et revendre des stupéfiants, ne gagnant parfois que quelques dizaines d'euros. Laissées libres et placées sous contrôle judiciaire à l'issue de leur garde à vue, elles comparaîtront le 3 mai prochain devant le tribunal d'Ajaccio.
En politique, l'Assemblée de Corse se prépare à un débat d'importance. Deux semaines après la Corse et les places Beauvau entre les élus insulaires et le ministre de l'Intérieur, le projet d'écriture constitutionnelle visant à inscrire la Corse dans la loi fondamentale doit être validé par les conseils territoriaux. Le rendez-vous est pris pour mercredi. Un débat suivi d'un vote, mais qui, Patrick Vinciguerre, ne devrait pas poser de problème.
Une nouvelle étape dans le long chemin vers une possible autonomie qui s'annonce en effet comme une formalité. La délégation insulaire présente le 11 mars dernier Place Beauvau ayant très majoritairement approuvé le document issu des discussions. Seul le sénateur Jean-Jacques Panunzi et le coprésident d'Ossociuno, Jean-Martin Mondoloni, ont exprimé des réserves. Dans l'hémicycle territorial ce mercredi, les voix manquantes devraient donc appartenir au groupe de droite, un groupe de 15 conseillers divisé puisque la coprésidente Valérie Bozzi a elle souscrit à l'accord. Reste à savoir dans quelle proportion les voix se partageront et si les opposants voteront contre ou s'abstiendront. Jean-Martin Mandoloni a répété qu'il n'avait pas vocation à être le bourreau du processus. Autre voix qui devrait manquer, celle de l'indépendantiste Josefa Giacometti, qui a dénoncé une autonomie au rabais, mais au final, une très large majorité devrait entériner cette dernière mouture du projet d'écriture constitutionnelle, avant que ne commence dans quelques semaines le plus dur, l'étape parlementaire et tout d'abord le Sénat. Les opposants, notamment à droite, ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ils ne laisseront pas passer un projet qui, selon eux, attente à l'unité de la nation.
Donc, plus indépendant de l'autonomie du processus d'autonomie, c'est l'autonomie fiscale. La démographie de la Corse peut-elle poser problème? Dans le cadre du processus Beauvau, notre île est régulièrement comparée à d'autres îles, la Sicile qui compte plus de 5 millions d'habitants, mais aussi l'Islande qui n'en compte seulement que 376 000 habitants. Entre ces deux extrêmes de population, comment pourrait se situer ou peut se situer une Corse fiscalement autonome? Le journaliste économique François Langlais donnait hier une conférence au parc Galea à Taglio Isolaccio. Pour lui, évidemment, la démographie d'un territoire a son importance.
Plus précisément, la population active, celle qui est en âge de travailler. Alors, il y a quand même une grande différence entre la Corse et la Sicile, par exemple, c'est que la Corse a une démographie dynamique. En Sicile, on voit au contraire beaucoup de gens qui émigrent vers le nord, faute d'opportunités économiques, notamment les jeunes qualifiés. C'est un destin que, à mon sens, il faudrait éviter en Corse. Alors l'Islande, c'est un cas un peu à part. Ils sont d'ailleurs dans un grand questionnement sur leur stratégie économique parce que ils avaient parié à fond sur les banques. Et ça a été une catastrophe. Et aujourd'hui, ils refont un peu, peut-être pas une erreur, mais en tout cas, ils ont fait un pari stratégique qui est d'héberger beaucoup de data centers, notamment pour le Bitcoin. Et la première ministre a dit il y a quelques jours, attention, est-ce qu'on n'est pas en train de se spécialiser dans quelque chose de dangereux qui va dévorer tout notre potentiel énergétique? Et elle souhaiterait développer l'agriculture de façon à rendre l'Islande autonome. Ces questions de stratégie économique se posent sur tous les territoires.
Le maire de Porto Vecchio, Jean-Christophe Angelini, était ce matin, ce lundi, entre 7h45 et 8h30, l'invité de notre nouveau rendez-vous du lundi au Jomer. Chaque lundi, vous le savez maintenant, un élu répond à ses administrés et les questions sont très concrètes. On parle du quotidien, du petit quotidien, du stationnement, des grands projets aussi, de l'école et de l'accueil dans les cantines, par exemple.
Depuis quelques années, je reçois des appels de famille à la période de la rentrée des classes, un peu désespérés parce que leurs enfants n'ont pas été acceptés à la cantine ou au centre aéré à cause du fait que ce sont des enfants sous PAI à cause d'allergies alimentaires, en fait. Je voulais savoir ce que la commune avait prévu pour éviter ce genre de désagrément au Porto Vecchio.
Il y a quand même, sur le front de la petite enfance, un certain nombre de carences. On a ce qu'on appelle à Porto Vecchio un taux de couverture. En gros, une capacité en termes de lits, de berceaux, d'accueil à offrir, relativement au nombre de naissances, très faible. Donc on a entrepris tout d'abord de doubler en 5 ans la capacité d'accueil de la commune de ce point de vue-là. Et on veut réaliser donc 3 crèches nouvelles dans les quelques années qui viennent. Le second point, c'est celui de la création d'une cuisine municipale. Ce sera prêt à la fin de l'année. J'ai moi-même dérogé de façon exceptionnelle, mais néanmoins répété, des situations individuelles pour permettre justement à ces enfants de s'inscrire dans un parcours éducatif classique. Hein, et je vous prie de croire qu'on a à cœur là aussi de répondre concrètement aux aspirations des gens.
Et avant de répondre aux questions des auditeurs, Jean-Christophe Angelini était l'invité de la rédaction de RCFM. Il a été notamment question des grands projets pour Porto Vecchio, de la politique mise en place pour le logement, afin de permettre aux Porto Vecchiais de se loger, d'accéder à la propriété face au nombre important de résidences secondaires. Jean-Christophe Angelini, interrogé par Caroline Saglione.
Bonjour Jean-Christophe Angelini, merci d'être avec nous ce
Bonjour
matin.
Bonjour à tous, merci.
Alors transformer Porto Vecchio, rendre la ville à ses habitants, c'est votre credo depuis que vous avez été élu. Première mission, et elle est importante, c'est le logement. Dans une ville qui concentre près de 63% de résidences secondaires, Porto Vecchio, on ne se cache pas, c'est une zone tendue. Le déséquilibre flagrant entre la demande de logement à l'année et l'offre. Inverser la tendance est donc votre priorité. Quels outils avez-vous mis en place ?
Alors, on a effectivement dit dès 2020 et pendant la campagne auparavant et durant des années encore où nous étions dans l'opposition que le logement était la première souffrance des Porto-Vecchiens. Effectivement, aujourd'hui, par-delà le nombre important de résidences secondaires qui posent un certain nombre de débats, on a un parc de résidences principales qui est minoritaire, qui n'est pas toujours en très bon état, et une difficulté d'accéder à la propriété, bien sûr, mais dans bien des cas également à la location. Donc on a entrepris d'inverser la tendance. Les outils, premièrement un PLU.
Il faut préciser que votre commune n'a pas de PLU.
Tout à fait.
Donc en ce moment, vous faites du cas par cas en fonction
exactement,
de la RNU.
Au RNU, que les élus connaissent bien, Règlement National d'Urbanisme. Donc en gros, au cas par cas, sans vision de long terme, sans outils de planification, sans possibilité d'offrir des réponses massives. Par-delà le fait d'urbaniser ou pas une parcelle, en termes de vision de l'espace public, de réappropriation, on l'a dit, de l'intégralité du territoire, mais également d'alternatives en matière d'agriculture, d'accès au territoire villageois, rural, à l'intérieur de la commune, à la montagne. Pour nous, le PLU, c'est ça. C'est bien sûr donner du logement à tous, organiser l'activité économique, mais également se réapproprier la réalité.
Permettre à des habitants de bénéficier de leur parcelle, c'est
exactement, ça parce qu'on a souvent cette image, je dirais ce cliché par certains côtés, d'une ville exclusivement touristique, mais Porto-Vecchio, il faut la connaître. C'est 60% des habitants qui vivent dans les villages et dans l'intérieur. C'est une ruralité extrêmement marquée. C'est une tradition agricole ancienne. Bien sûr, la cité du sel, mais pas seulement le Liège, l'usine à Liège, les usages traditionnels, artisanaux. C'est vrai, une économie touristique que l'on assume totalement, autour de laquelle, pour notre part, on n'a pas de schizophrénie. On la vit, on en vit, on la développe, mais en même temps de façon durable, annualisée, résiliente, en protégeant l'environnement, le patrimoine, la culture. Donc oui, avec, je le disais, donc, un plan local d'urbanisme, Caroline.
Il sera prêt quand, ce PLU ?
On va le voter entre mai et juin 2024, plus vraisemblablement en juin. Donc il sera prêt dans un mois, puisqu'il faut poser le stylo, comme on dit, assez vite, et le voter ensuite, après le dernier PADD, donc deux mois après.
Puis il y a ce plan logement très ambitieux, hein, 2023 sur 10 ans.
1000 logements. Je veux rappeler que le PLU va nous permettre, au-delà des 1000 logements qui ont été prévus à Casassi, de créer en gros 2800 logements à titre principal. Vous le disiez, 63% de résidences secondaires. Mon objectif, il est simple. Vous parliez de transformer. Transformer la vie des gens, c'est d'abord leur donner un toit. Donc 2023-2033, on inverse la tendance, on rééquilibre au moins 50-50, et si on le peut, très clairement, dans ce qui restera la première station touristique de Corse, plus de 50% de logements principaux.
Et alors justement, dans ces 1000 logements, est-ce qu'il y a des logements sociaux dans une commune où il y a quand même un peu plus de 20% de pauvreté ?
Tout à fait. C'est le premier adjoint, Michel Giras, qui, je veux le dire, parce qu'il fait un travail qui est remarquable dans une équipe où chacun le sait, je délègue et on délègue énormément. Donc c'est lui qui pilote avec une cellule très active ce sujet-là. 1000 logements, en gros, décomposés de la manière suivante. Un petit tiers de logements sociaux. On est aujourd'hui à peu près à 12-13%. Notre objectif, c'est effectivement de monter de 20 à 25, même si on n'est pas soumis au fameux quota que beaucoup d'autres maires connaissent. Pour le reste, on aura de l'intergénérationnel, du saisonnier, du LLI, du loyer locatif intermédiaire, qui permet d'être logé et ensuite d'être propriétaire à des conditions tarifaires, dirons-nous.
Voilà, le prix, justement, est-ce que tout ça va permettre de faire baisser les loyers ? Parce que, bien bon, il y a des loyers, il y a quand même 40%, 30% de votre population, oui, qui ne peut pas accéder au marché du neuf.
Tout à fait.
5000 euros le mètre carré, c'est énorme. Est-ce que cette politique avec ce PLU, ces logements, va faire inverser un petit peu la tendance ?
C'est très exactement notre objectif politique, baisser le coût à la location, qui a considérablement augmenté ces dernières années, baisser le coût du foncier et bien sûr baisser le coût du logement, toutes choses qui sont à notre portée avec les effets conjugués, je le répète, du plan local d'urbanisme voté dans quelques 2 ou 3 mois, de la stratégie à Casas, 1000 logements en 10 ans, donc 100 logements nouveaux, 100% en résidence principale, donc en termes de vitesse de croisière, et bien sûr, je l'ai dit, une stratégie globale d'urbanisation et d'aménagement du territoire beaucoup plus respectueuse. Le PLU de 2008 prévoyait, de manière à mon avis échevelée, inconsidérée, d'ouvrir à l'urbanisation près de 2000 hectares. Nous allons, avec ce PLU, en ouvrir 200 sur 20 ans.
Non, ce qui est assez important.
Tout à fait.
Il y a également des choses que vous faites pour réinjecter dans la commune. Il y a par exemple cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 40% de majoration.
Oui.
Il y a également une taxe sur les logements vacants.
Exactement.
Et puis, alors, sur le port, le nouveau port de Porto-Vé, qui est un petit peu décrié, vous dites aussi, vous allez prendre aux plaisanciers pour réinjecter dans la ville, pour des infrastructures.
Sûr.
Vous êtes un petit peu le Robin des Bois de l'extrême sud. On prend aux riches pour donner aux pauvres.
J'irai pas jusque-là, mais une chose est certaine, c'est que oui, et je l'assume totalement. Vous savez, tout le monde vous le dira, je parle des élus, on ne peut distribuer ou partager que ce que l'on crée. Moi, je ne veux pas, c'est un choix politique, d'une commune qui soit ultra dépendante de l'argent public, ultra dépendante d'une logique de rente, fût-elle touristique, ultra dépendante d'un certain nombre de systèmes anciens qui sclérosent et qui empêchent. Moi, j'ai été élu avec l'ensemble de l'équipe que j'ai l'honneur de diriger sur un contrat simple. Transformer la ville, changer la vie des gens. C'est pas des mots. Je lisais mon ami Thierry Domingue qui écrivait au sujet des villes conquises par des autonomistes, des nationalistes et plus généralement qui ont connu une alternance après une longue période sans alternative. C'était le cas de Porto-Vé que sur près d'un siècle. Et il disait que la rupture intervenait souvent au niveau des symboles. C'est tout ce que je n'aime pas. J'aime bien les symboles comme tout le monde, mais ce que je préfère, c'est les réalités. Moi, ce qui m'importe, c'est que les choses aillent mieux à la fin de mon mandat qu'à son début. Donc oui, changer la vie des gens, et c'est vrai, se servir du port comme d'un levier de recette pour redistribuer une partie des gains aux Porto-Vecchiais au sens du service public que l'on doit, école, crèche, éducation, culture, sport, équipement public, ça me paraît fondamental.
Prochain rendez-vous avec Aujomer, c'est lundi 8 avril. Un sujet d'actualité, toujours, la gestion des déchets. Seulement 2% des biodéchets sont triés encore. C'est ce qui ressort du bilan du CIVADEC. Si plus de 100 000 habitants disposent d'une solution pour composter ces biodéchets, seulement 15 kilos par habitant sont traités, sont déposés dans les composteurs ou les bacs spécialement dédiés à cela. Sur 5000 petites tonnes par an, soit 5000 petites tonnes par an quand on sait qu'ils représentent plus d'un quart de ce qui se trouve dans nos poubelles. Alors pour faire face à cette situation, depuis le 1er janvier, vous le savez, la loi impose aux collectivités de mettre en place des solutions pour les biodéchets. Le compostage est obligatoire, ça c'est sur le papier. Car sur le terrain, entre habitudes de la population et aménagement urbain, ça peut vite devenir un casse-tête. Exemple, avec la communauté d'agglomération de Bastia, avec Christophe Duccelli, on voit les lotissements et la forte densité de la ville dans le centre qui pose problème.
En ce début d'année 2024, sur l'agglomération bastiaise, 3300 maisons individuelles sont équipées d'un bac pour collecter les biodéchets. 55 résidences également, ainsi que 26 points de regroupement. Au total, 24 000 habitants ont de quoi trier leurs biodéchets, un peu plus de 30% des administrés, explique Jean-Charles Léonard, dit vice-président à la CAB en charge des déchets.
Deux approches, à savoir le porte-à-porte, en habitat individuel, c'est ce qui se fait plus facilement. Deuxième approche, c'est le déploiement en habitat collectif vertical. On s'aperçoit malheureusement qu'à certains endroits, on rencontre des difficultés. Alors, des bacs mal triés, ça a un coût supplémentaire.
Se pose également l'épineuse question de la collecte dans le centre ancien de Bastia.
L'hypercentre, il y a cette difficulté par rapport au bâti ancien, où là, malheureusement, pour des raisons de sécurité tout simplement aussi et pour des raisons olfactives, il n'est pas possible de mettre des bacs dans les halls d'immeubles comme on a pu le faire sur différents endroits du territoire.
Containers semi-enterrés, logettes sont ou vont être déployés. Objectif, augmenter le nombre de biodéchets collectés. Louis Colombagne, le directeur de la collecte.
Alors on a connu une baisse au début d'année 2023. Ensuite on a rectifié le tir, on est passé en collectant deux fois par semaine. Du coup, les chiffres remontent, on a une augmentation croissante de 8%. On est passé à 340 tonnes. Cette année, on sera plus aux alentours des 400 tonnes, 450.
La marge de progression est encore grande. Près de 8000 tonnes de biodéchets sont produites chaque année par la communauté d'agglomération de Bastia.
Allez, un coup de projecteur maintenant sur une association. L'association L'Éveil, elle est basée en Haute-Corse. Elle fête ses 60 ans depuis 1960. Cette association accompagne des adultes et des enfants avec un handicap mental. La semaine dernière, les institutions partenaires ont visité les 3 établissements de la région bastiaise, visite qui a de l'importance et à plus d'un titre, Alexandre Golini.
Parmi ses quelques 220 salariés et ses 330 résidents, l'association de l'éveil de Haute-Corse était sur le qui-vive pour la réception du préfet. Une première visite très importante pour sa présidente, Véronique Cuvillier-Lougari.
C'est la première fois qu'un préfet vient nous voir dans les établissements. Et de voir qu'un préfet qui, bien entendu, représente l'État, et surtout nous avons nos financements grâce à l'État qui nous permet de fonctionner, nous donne évidemment un peu plus d'espoir dans l'avenir qui nous attend. Parce que je rappelle quand même que ce sont des bénévoles qui géreront ce genre d'établissement par le biais d'une association.
L'occasion pour Michel Prozic, préfet de Haute-Corse, de mettre en lumière l'ensemble du personnel et des résidents.
Quand on a des femmes et des hommes qui s'engagent autant au profit de nos concitoyens qui présentent une différence parfois, et ben c'est eux qu'il faut venir voir, c'est eux qu'il faut mettre en avant, c'est eux qu'il faut mettre en lumière, c'est eux qu'il faut remercier.
Même si le personnel reste suffisant, l'association fait face à un manque de candidatures, selon sa directrice générale, Patricia Beck.
Nous sommes surtout confrontés à des problématiques de recrutement de personnel. Aujourd'hui, on accuse une diminution du nombre de candidatures de façon générale dans le secteur. La Corse était plutôt épargnée jusqu'à présent et on commence à le ressentir aussi. Et
des candidatures, il va en falloir, car un nouveau bâtiment scolaire à Bastia est prévu d'ici 2027.
La Corse est dans la Semaine Sainte, entrée en grande pompe hier avec les messes et les bénédictions des rameaux partout dans l'île. L'église a sorti ses habits d'apparat pour célébrer la semaine pascale, la plus importante du calendrier religieux, avec en point d'orgue le caténat. Une ferveur et une tradition qui ne se dément pas dans l'île. Le père Georges Nigoli revient sur cette semaine sainte avec Christophe Dudicelli.
C'est pour nous l'occasion de nous rappeler de tout ce que le Seigneur nous a apporté dans sa mort et sa résurrection. Donc oui, c'est une belle semaine qui s'ouvre avec un nombre important de célébrations, mais aussi avec des célébrations qui sont uniques, puisqu'elles se vivent qu'une fois dans l'année, et elles mobilisent beaucoup de monde, beaucoup d'énergie. Les rameaux, qui est une des messes populaires. On aura le caténage aussi, et puis la célébration de Pâques. Mais il y en a deux autres qui méritent d'être connues, celle du Jeudi Saint, où véritablement on célèbre la première messe que le Seigneur a célébrée pour nous, il se donne. Et puis aussi la nuit de Pâques, la veillée pascale, où les chrétiens célèbrent dans la nuit la résurrection du Christ et où on procédera au baptême des adultes. Et cette année, dans notre paroisse, on procédera au baptême des adultes par immersion, ce qui est une première pour notre paroisse. Donc ce sera un bon moment de foi et de joie.
Et puis un des temps forts pour les confréries en cette Semaine Sainte, c'est Bonifacio, qui compte pas moins de 5 confréries. Celle de Santa Maria Maddalena s'est rapprochée d'une confrérie de 4. C'est le sujet d'ailleurs de la chronique Mareladino ce lundi avec Jérôme Souzini.
Et la Semaine Sainte, très animée en Corse, notamment par l'ensemble des confréries. Parmi ces confréries, il y en est du côté de Bonifacio, il n'y a pas moins de 5 confréries qui sont très actives, dont cette confrérie Santa Maria Maddalena. Bonjour Stéphane Auxerre.
Bonjour, merci de nous accueillir.
Vous êtes le porte-croix de cette confrérie Santa Maria Maddalena. Cette confrérie procède à un rapprochement en ce moment avec vos confrères, c'est le cas de le dire, de Sardaigne. De quoi s'agit-il ?
En fin d'année 2022, on a pris contact avec un monsieur qui s'appelle Enrico Contino, qui est de Cagliari, qui nous a mis en relation avec le secrétaire de la Congrégation des Altieri di Cagliari. Les Altieri sont le nom ancien des artisans. Ce secrétaire s'appelle Gianni Agnesi. Et nous allons procéder à des échanges. Gianni va venir avec sa confrérie pour la Saint-Isidore, qui est une des fêtes que nous réorganisons à Bonifacio autour des valeurs agricoles. Et normalement, notre confrérie ira, avant la neuvaine de la Toussaint, visiter les confréries cagliaritanes. C'est important parce que on s'aperçoit, les valeurs sont les mêmes, les coutumes, toute la gestuelle, toute la procédure sont souvent identiques. Plus on se rapproche de confréries qui émanent de Gênes, comme les nôtres, et donc comme celle des Genovesi à Cagliari et à Sassari, et plus on s'aperçoit que les pratiques, voire les objets, les crucifix sont identiques.
Merci beaucoup Stéphane Auxerre, et on va dire bonne semaine de Pâques du côté de Bonifacio.
Merci à vous. Bonne Zetimana Santa Odino.
Voilà, pour conclure, sachez que le gouvernement a rehaussé le niveau Vigipirate à urgence attentat, niveau le plus élevé. Après l'attaque à Moscou, l'annonce a été faite par le Premier ministre Gabriel Attal à l'issue d'un conseil de défense à l'Elysée. L'attaque d'une salle de concert dans la banlieue de Moscou vendredi soir, revendiquée par le groupe djihadiste État islamique en est la cause, selon Matignon. Cette organisation terroriste menace la France et a été impliquée dans plusieurs projets d'attentats récents, déjoués dans plusieurs pays d'Europe. Le président de la République, Emmanuel Macron, a d'ailleurs indiqué que la police et les renseignements français seront prêts, notamment pour les JO 2024. Voilà pour l'info. Retour de l'actualité insulaire à RCFM, la radio, c'est à 16h. L'info, c'est quand vous voulez, sur Bleu RCFM et nos réseaux sociaux, X et Facebook. Et dans quelques instants, à 12h30 précisément, nous retrouverons Jean-Philippe Thibaudeau pour le MacFoot.